Chapitre 12. Rome. Il faut avouer, monsieur, que c'est une drôle de chose que la destinée. Souvent, vous échouez dans vos projets au moment même de les voir réussir. Une chance heureuse vous arrive quand vous avez perdu tout espoir, et lorsque vous pensez aller au bal, crac, vous vous cassez un bras ou une jambe, et vous voilà dans votre lit pour 6 mois. En vérité, monsieur, si l'on était raisonnable, on ne formerait jamais de projet pour l'avenir, et l'on attendrait tranquillement que le livre des destins se déroulât devant soi. C'était monsieur Franck qui, tout en trottant à côté de son maître, s'amusait à lui faire part de ses réflexions. Quoique simple valet, Franck avait observé, réfléchi, et c'était d'après ce qu'il avait vu qu'il parlait à Henri. Les raisonnements de bien des philosophes se réduisent souvent à la destinée. « Mais à propos de quoi tout ce galimatias ?» dit Henri à Franck en sortant de ses réflexions. « Mais à propos, monsieur, que nous voici sur la route de Naples, au moment où j'y pensais le moins, et vous aussi peut-être. »« Ah oui, il a raison, » dit Henri en lui-même, mais il ne voulut pas raconter à Franck une aventure qui blessait son amour-propre et qu'il voulait oublier tout à fait. « Ne sentez-vous pas qu'il pleut, monsieur ?» dit Franck à Henri, après une heure de silence. « C'est vrai, mais que veux-tu y faire ?»« Ma foi, monsieur, je ne vois pas ce qui nous empêcherait de nous mettre à l'abri, plutôt que de nous faire mouiller jusqu'aux os, car je crois que c'est un orage qui se prépare. » « Tu as raison, eh bien, cherchons un endroit jusqu'à ce que l'orage soit passé. »« Mais c'est bien dit, monsieur, mais c'est que je n'en vois pas. » « Avance encore !» Après avoir longtemps cherché, Henri aperçut un vieux bâtiment tombant en ruine et qui paraissait totalement abandonné. « Tiens, Franck, vois-tu ces vieux murs ? Bien, c'est là que nous trouverons un abri. »« Oh, j'en doute, monsieur, car ce bâtiment m'a l'air en bien mauvais état et ne sert peut-être depuis longtemps que de retraite à des voleurs. »« Aurais-tu peur d'y entrer ?» « Oh, mon Dieu, non, monsieur, car si c'est ma destinée d'y être assassiné, j'aurais beau faire, je ne pourrais pas l'éviter. »« Allons, je vois que la philosophie est bonne à quelque chose. Mais pressons nos chevaux et hâtons-nous d'arriver, car l'orage augmente. » Henri et Franck arrivèrent enfin devant le vieux bâtiment, qui paraissait être un ancien couvent. Ils traversèrent une cour remplie de décombres et entrèrent sous une vaste galerie que le temps avait un peu plus ménagé. « Et sais-tu bien, Franck, que cet endroit a quelque chose de romantique et que je ne serais pas surpris qu'il nous y arrivât quelque aventure extraordinaire ?»« Ni moi non plus, monsieur. On dit d'ailleurs qu'elles sont très communes en ce pays. » Ils avaient à peine fini de parler lorsqu'un bruit sourd se fit entendre au fond de la galerie. « As-tu entendu, Franck ?»« Oui, monsieur. » C'est quelqu'un qui nous écoutait. Avançons, dit Henri. Je suis curieux de savoir ce que c'est. Franck et son maître se mirent aussitôt en marche, mais à mesure qu'ils avançaient, il leur semblait que quelqu'un s'éloignait devant eux. Au bout de la galerie, ils trouvèrent un escalier et le montèrent en tâtonnant. La personne qui fuyait en ayant fait un faux pas en voulant se hâter, se laissa rouler le long des marches. Henri la retint et la saisit au collet. « Oh, par grâce, ne me tuez pas, monsieur le voleur !» dit en se jetant au pied de Henri la personne qui l'avait arrêté. « Qui es-tu ? » lui demanda celui-ci. « Un pauvre domestique qui n'a pas le sou. »« Es-tu seul ici ?»« Non, monsieur le voleur, je suis avec mes maîtres qui m'ont envoyé à la découverte. » « Conduis-moi auprès d'eux. »« Oui, monsieur le voleur, volontiers. » Henri tenait toujours l'inconnu dont il soupçonnait la véracité. Celui-ci, les conduisant dans une pièce au-dessus de la galerie, ouvrit une porte et s'écria « Voilà le chef de la bande !» Henri fut très étonné de se trouver dans une pièce où l'on avait fait un bon feu et allumé plusieurs torches, et dans laquelle était une dame d'une trentaine d'années, avec une autre femme beaucoup plus jeune et quatre hommes en livrée, debout derrière elle. Au cri que jeta en entrant le conducteur de Henri, la dame fit un mouvement d'effroi et les quatre hommes sautèrent sur leurs carabines. « Pas tant de frayeur, messieurs, » dit Henri en riant. « Je ne suis pas un voleur, mais un voyageur, et voilà mon domestique. J'ai été bien aise de voir où cet homme me mènerait et de savoir enfin à qui j'avais affaire. » Henri s'approcha ensuite de la dame en lui faisant ses excuses pour la frayeur qu'il lui avait causée et lui avoua qu'il ne croyait pas trouver une si grande société dans un endroit qui paraissait abandonné. La dame lui apprit qu'elle se nommait la marquise de Belloni, qu'elle venait de faire un voyage dans une de ses terres près de Florence et retournait à Rome lorsque l'orage les avait surpris devant le vieux bâtiment et qu'elle avait préféré y entrer plutôt que d'exposer les jours de ses domestiques. « Et je venais d'envoyer cet homme à la découverte, » ajouta-t-elle en montrant à Henri, celui qui lui avait servi de guide. « Et comme je connais sa poltronnerie, je m'attendais bien à quelques bévues de sa part, mais je suis enchanté, charmé, monsieur, qu'il soit cause de notre rencontre. » Henri répondit à ce compliment de la manière la plus galante et informa aussi la marquise de son nom et du but de son voyage. Lorsque la marquise apprit le nom et le titre de Henri, elle parut encore plus flattée de cette aventure et s'établit entre eux une conversation fort animée. Franck, de son côté, chercha à lier connaissance avec la jeune personne qui paraissait être la femme de chambre de la marquise. Mais Mademoiselle Julia, c'était son nom, n'écoutait guère Franck et lorgnait beaucoup Henri. La marquise et Henri oubliaient en causant que la nuit se passait. Mais les domestiques, qui probablement ne s'abusaient pas autant que leur maîtresse, lui firent remarquer que le jour commençait à poindre. La marquise s'informa du temps. On lui dit que l'orage était apaisé, mais que la pluie tombait toujours avec violence. Alors elle pria Henri d'accepter une place dans sa voiture, puisqu'il se rendait à Rome ainsi qu'elle. Henri, qui avait remarqué les œillades de Julia, et qui trouvait la marquise fort belle femme, n'eut garde de refuser, et l'on descendit dans la cour pour se remettre en voyage. « Ah !» disait Franck en lui-même, en suivant son maître, « je vois bien que cette aventure, qui avait un air romanesque, finira aussi simplement qu'une autre. » Henri était dans la voiture avec les deux dames. La marquise voulut qu'il occupât le fond avec elle. Mademoiselle Julia se mit devant Henri en faisant une petite moue qui lui allait à ravir. C'était une jolie petite femme que cette Julia. Elle avait des yeux d'une expression admirable et elle les portait assez habituellement sur Henri lorsqu'elle voyait que sa maîtresse ne la regardait pas. Quant à la marquise, c'était une femme parfaitement belle. Sa taille noble et élégante était encore relevée par une figure d'une beauté régulière. Ses cheveux étaient d'un noir éblouissant et ses yeux, pleins de feu et de vivacité, annonçaient une âme brûlante et un caractère impétueux. Les voyageurs arrivèrent à Rome sans autre accident et la marquise, en quittant Henri, l'invita à venir souvent partager sa société. Henri le promit en regardant Julia, qui ne paraissait pas désirer moins vivement que sa maîtresse, qu'il se rendit à son invitation. « Au moins, » disait en lui-même Henri, en parcourant les rues de Rome pour chercher à se loger, « cette femme-là est bien une marquise, et n'a pas fait les princesses sur aucun théâtre. » Après avoir choisi l'auberge la plus élégante de la ville, Henri fit venir divers marchands afin de s'habiller dans le dernier goût et fort richement. « Monsieur, » dit Franck à son maître, « savez-vous que cette marquise-là vous ruinera si cela continue ?»« Imbécile, crois-tu que mon frère père refusera de m'envoyer tout l'argent dont j'aurai besoin ?»« Dame, monsieur, il n'aurait qu'à se lasser de vos voyages et vous ordonner de retourner près de lui. »« Eh ben alors, il sera temps de nous ranger. » Le soir même de son arrivée, Henri se rendit chez la marquise de Belloni. Elle demeurait dans le plus beau quartier de la ville. Son hôtel était de la dernière magnificence et tout chez elle respirait le luxe et la splendeur. Une société brillante et nombreuse était réunie chez la marquise. Cette dernière reçut Henri de la manière la plus gracieuse et le présenta aux personnes les plus distinguées qui, sur la recommandation de la marquise, comblèrent Henri de politesse et eurent pour lui tous les égards. Notre héros ne s'était pas encore trouvé dans un cercle aussi brillant. Entouré de femmes charmantes qui semblaient se disputer sa conquête et flatter les attentions de la marquise, il se crut au plus haut degré des honneurs. Cependant, comme au milieu de tant de monde il ne pouvait pas souvent entretenir la marquise, il se mit pour passer le temps à une table de jeu. Bientôt, la vue de l'or qui brillait devant lui échauffa son imagination, et voulant d'ailleurs imiter les personnes avec lesquelles il jouait, il perdit en un moment tout ce qu'il avait sur lui. Après s'être levé de table, il se promenait tranquillement dans le salon, examinant les divers personnages qui le remplissaient, lorsqu'il crut entrevoir à la porte d'entrée quelqu'un qui lui faisait signe de venir à lui. L'idée de Julia, qu'il n'avait pas encore vue, se présenta sur-le-champ à sa pensée, et voulant s'assurer de la vérité, il s'approcha de la marquise pour lui faire ses adieux. La marquise lui dit qu'elle l'attendait le lendemain matin pour déjeuner. Henri promit et s'éloigna lentement du salon. À peine avait-il franchi le seuil de la porte qu'une femme le prit par la main en lui disant de la suivre. Henri ne reconnut pas Julia, mais cependant il se laissa conduire. La personne lui fit traverser une longue enfilade de pièces qui n'étaient pas éclairées. Ensuite, s'arrêtant dans une plus petite que les autres, elle lui dit d'attendre un moment et le laissa seul dans l'obscurité. « Que veut dire ceci ?» pensa Henri quand il fut livré à lui-même. Cette aventure prend une tournure tout à fait piquante. N'oublions pas que je suis en Italie et que c'est le pays des prodiges. » Après s'être préparé à tout événement, il s'assit sur un sofa et s'endormit en attendant la suite de son aventure. « Comment, vous dormez ?» dit à Henri une petite voix douce en le poussant légèrement. « Oh, c'est vous, charmante Julia !» répondit Henri en s'éveillant. « Oh, il me semble que vous m'avez laissé dormir bien longtemps !» Julia, car c'était elle, lui avoua qu'il y avait plus d'une heure qu'il était là et qu'elle avait même craint qu'il se fût éloigné. « Mais où serais-je allé, puisque je ne connais pas les détours de cet hôtel? Mais pourquoi m'avez-vous laissé seul si longtemps ?»« Parce que madame la marquise m'a fait appeler et que je n'ai pas pu la quitter plus tôt. »« Ah, mais laissez-moi donc, monsieur, je vous en prie, j'ai quelque chose de très important à vous dire. »
« Oh, tu me le diras une autre fois. »«
Non, monsieur, mais finissez donc. Si madame la marquise venait... »
Malgré les grands efforts de Julia, Henri profita de l'obscurité pour redoubler l'audace et on lui céda une victoire qu'on n'avait jamais eu intention de lui refuser.
« À présent, vous m'écouterez, j'espère, monsieur. »«
Oh oui, ma chère Julia, je suis tout oreille. »«
Vous saurez donc, monsieur, que... » Oh, grand Dieu, je crois que voilà madame la marquise.
Oh, effectivement, j'ai entendu bruit.
Oh, ciel, il faut justement qu'elle passe par ici pour entrer dans sa chambre à coucher.
Eh bien, quand elle me verrait, quel mal y aurait-il?
Oh, monsieur, je serais perdu sans retour.
Je me dirais que je me suis égaré dans son hôtel en voulant m'en aller.
« Oh, mais vous ne connaissez pas le caractère soupçonneux de madame la marquise. Elle se douterait de quelque chose. Elle vous aime, j'en suis certaine, et nous serions perdus tous deux. »«
Que faire alors ?»«
Elle approche. J'entends sa voix. Il faut vous cacher. »«
Mais où ?»«
Tenez, dans cette armoire. Il y aura assez de place pour vous. »«
Mais j'ai tout frais là-dedans. »«
Non, non !» Ne bougez pas, je viendrai vous délivrer, sitôt que madame sera couchée.
Il était temps que Henri se cachât, car la marquise entra bientôt dans le cabinet, tenant une bougie à la main.
« Ah, vous voilà, Julia. Où étiez-vous donc allée? Depuis 2 heures, je vous cherche partout. »«
Mais, madame, j'étais venue dans votre appartement, voir si rien ne vous manquait. »«
Mais comment donc êtes-vous sans lumière ?»«
Madame, c'est que la mienne s'est éteinte. »
« Alors, il suffit. Venez me déshabiller. »«
Madame se couche déjà ?»«
Comment déjà ? Mais il est près de 3 heures du matin. » »«
Ah oui, vous avez raison, madame. »
Julia suivit la marquise en maudissant le sort qui la séparait de celui qu'elle aimait, et dans un moment où il avait tant besoin d'elle. Et effectivement, Henri n'était pas du tout à son aise dans une armoire faite à la vérité pour pendre les robes de madame, mais où il ne pouvait pas changer de position et où le défaut d'air augmentait son martyre. En vain, il voulut essayer d'ouvrir la porte de sa cage. Julia, pour plus de sûreté, en avait emporté la clé, et elle ne s'ouvrait pas en dedans. «
Oh !» disait en lui-même Henri. « Mon précepteur Müller m'avait bien dit que les femmes me feraient faire des sottises. »
Enfin, après une demi-heure d'anxiété, Henri résolut de sortir d'une position qui devenait insupportable. D'ailleurs, il aurait attendu en vain que Julia vint à son secours. La marquise, qui paraissait soupçonner quelque chose, conduisit Julia hors du cabinet qui donnait dans sa chambre à coucher et en referma la porte sur elle, de sorte que la pauvre enfant fut obligée d'abandonner son amant à la merci d'une autre femme. Mais elle espéra que Henri, fatigué de sa soirée, s'endormirait tranquillement où elle l'avait laissé.
« Ma foi, il en arrivera ce qu'il plaira au ciel, » dit Henri, « mais faut absolument que je sorte d'ici. »
Il commença par ébranler la porte de l'armoire, et il s'aperçut avec joie qu'en la soulevant un peu, elle sortait de ses gonds. Il profita de sa découverte et fut bientôt dehors. Mais ce n'était pas tout. Il fallait sortir de l'hôtel et c'était le plus difficile. Henri se trouva, en quittant sa cachette, dans la même obscurité où il était auparavant. Comment retrouver son chemin? Comment ne pas commettre quelque méprise?
« Bon, allons tout droit devant nous, » dit Henri. « Cela me conduira toujours quelque part. »
Après avoir marché à tâtons, il trouva une porte ouverte et entra dans une autre chambre.
« Ben, cherchons un peu s'il n'y a pas ici quelque escalier, » disait en lui-même Henri.
Et tout en marchant le long du mur, au lieu de trouver un escalier, il sentit un lit devant lui.
« Oh, diable, dit-il, c'est peut-être le lit de la marquise. »
Un léger soupir qui se fit entendre l'avertit qu'il était occupé. Ne se souciant pas de la déranger, il s'éloignait précipitamment, lorsqu'en passant près d'un guéridon, son habit accrocha un cabaret de porcelaine qui se brisa en tombant sur le parquet.
« Qui est là ?»
dit une voix altérée que Henri reconnut pour celle de la marquise.
« Que faire ?»« Ma foi, » pensa Henri, « il vaut mieux passer pour un amant que pour un voleur. » D'ailleurs, c'est le seul moyen qui me reste, et je m'en tirerai comme je pourrai. » Ce parti pris, Henri s'approcha du lit de la marquise et lui dit
« Excuserez-vous ma témérité, madame. Il n'y a qu'un amour tel que le mien qui puisse vous faire pardonner ma démarche. »«
Quoi, monsieur de Framberg, c'est vous, à 7 heures, dans ma chambre ?»
« Oui, madame, je suis parvenu à gagner votre servante Julia et toucher de ma flamme pour sa maîtresse. C'est elle qui m'a caché dans votre appartement. »«
Se pourrait-il ? Ah, mais je ne m'étonne plus maintenant de son embarras. »« Mais c'est une horreur, une chose abominable, avoir eu l'audace de... »«
Quoi, vous êtes insensible à l'amour le plus tendre ?» « Eh bien, je m'éloigne, madame, je vous fuis pour toujours. »«
Arrêtez. Et où allez-vous maintenant? Si on vous voit sortir de chez moi, je suis perdu. »«
Eh bien, madame, alors coordonnez-vous. »«
Restez donc, il le faut bien, puisque c'est le seul moyen de sauver ma réputation. »
Henri resta et fit si bien que le lendemain matin, la marquise l'engageait encore à ne pas la quitter. Chapitre 13. Suite du précédent. Le lendemain matin, au petit jour, Henri parvint à faire consentir la marquise à le laisser partir. Après lui avoir fait les plus tendres adieux, il ouvrit doucement la porte du cabinet et descendit l'escalier, mais à peine avait-il fait quelques pas qu'il se trouva des années avec Julia.
« Comment, c'est vous, monsieur ?»«
Oui, Julia, c'est moi-même. »
« Et comment avez-vous fait pour sortir de l'armoire où vous étiez ?»«
Bon, j'ai fait comme j'ai pu. Mais en vérité, ma chère Julia, oh, je suis trop fatigué maintenant pour pouvoir te le raconter. »«
Si vous vouliez monter à ma chambre, maintenant que madame la marquise dort... »«
Non, non, ma bonne amie, il est temps que je retourne à mon auberge. Ce soir, je te dirai tout ce que tu veux savoir. » En disant ces mots, Henri descendit l'escalier et sortit précipitamment de l'hôtel de la marquise.
« Mais en vérité, je n'y conçois rien, » disait en elle-même Julia.
Et elle attendit avec impatience le moment de se rendre près de sa maîtresse. Vers midi, la marquise la sonna. Julia descendit en toute hâte, ne sachant si elle devait craindre ou espérer. Mais elle fut agréablement surprise de voir la marquise d'une humeur charmante et ne l'appelant que sa chère, sa bonne Julia. Ne sachant qu'augurer d'un accueil si flatteur, Julia finit par croire que sa maîtresse ne savait rien, et la marquise s'entint avec elle aux caresses et aux amitiés, sans vouloir lui en dire davantage sur ce qu'elle pensait bien qu'elle devinait. En rentrant chez lui, Henri écrivit au colonel pour lui demander de l'argent, et il envoya Franck porter la lettre. Franck, qui vit sur l'adresse pour qui il était, regarda son maître en souriant, d'un air qui voulait dire « Voilà mes prédictions accomplies !» Mais Henri alla se jeter sur son lit, sans s'amuser à lui répondre, et Franck dit en lui-même « Bon, si c'est sa destinée de perdre son argent, il n'y a pas moyen d'en empêcher !» Plusieurs mois s'écoulèrent de la même manière. Henri partageait son temps entre la marquise, Julia et le jeu. Le colonel lui avait envoyé l'argent qu'il avait demandé, et Henri se trouvait à même de continuer le même train de vie. D'ailleurs, la chance qui d'abord lui avait été contraire lui était devenue plus favorable, et il se livrait avec ardeur à une passion qui lui faisait parfois négliger la marquise et Julia. Les choses en étaient là lorsqu'une jeune comtesse napolitaine parut dans la société de la marquise. Henri ne put la voir sans ressentir pour elle cet amour qu'il avait déjà éprouvé pour cette dernière. De son côté, la jeune comtesse ne vit pas Henri avec indifférence. Mais la marquise, qui était jalouse à l'excès, lut dans les yeux de Henri sa nouvelle passion et résolut de se venger de l'infidèle. L'occasion ne tarda pas à se présenter. Henri reçut un billet dans lequel on l'engageait à se rendre devant la maison de la comtesse et qu'il serait introduit près de celle qu'il aimait. Ne se doutant pas que ce billet ne fût de la comtesse elle-même, Henri, au comble de ses vœux, se prépara pour son rendez-vous et envoya dire à la marquise qui la attendait ce soir-là qu'il était indisposé et ne pouvait se rendre auprès d'elle. L'heure du rendez-vous approchant, Henri se disposait à partir lorsqu'on frappa plusieurs coups à sa porte. « C'est peut-être la marquise, » dit Henri à Franck. « Faut pas ouvrir. » Mais ces mots «
Ouvrez, ouvrez sans crainte !»
prononcés d'une voix altérée engagèrent Henri à voir qui ce pouvait être. Il ouvrit et vit Julia entrer dans son appartement.
« Vous êtes étonné de ma visite, monsieur, » dit Julia à Henri. « Mais lorsque vous en connaîtrez le motif, j'espère que vous me saurez gré de vous l'avoir faite. »«
Que voulez-vous dire, Julia ?»«
Je veux dire, monsieur, que Madame la Marquise connaît votre nouvelle passion pour cette jeune comtesse napolitaine qui vient depuis peu chez elle.
Comment, Julia, tu me pensais?
Ah, monsieur, mais ce n'est pas moi que vous pourriez abuser. Je sais lire dans votre cœur, mais je vous aime trop pour vouloir me venger, non même que je le pourrais. Au contraire, c'est moi qui veux vous sauver du piège où vous alliez tomber.
Mais que veux-tu dire, Julia?
Vous avez reçu un billet ce matin.
Oui, il est vrai.
On vous donne rendez-vous pour ce soir à minuit, devant la maison où demeure la comtesse.
Mais qui donc t'a appris tout cela?
Comment ne le saurais-je pas, puisque c'est Madame la Marquise qui vous a fait écrire ce billet?
La Marquise?
Elle-même?
Et quel est son dessein?
De voir si vous la trahirez en allant au rendez-vous.
Et si j'y vais?
Elle est italienne, c'est vous en dire assez.
Quoi, tu penses qu'elle serait capable de...
Oh, la jalousie la rend furieuse contre vous. Et si vous m'en croyez, vous n'irez pas à ce rendez-vous.
Sois tranquille, ma chère Julia. Si j'y vais, je prendrai mes précautions.
Au surplus, je vous ai prévenu maintenant. Je vous laisse. Votre sœur est entre vos mains.
Adieu, ma chère Julia. Crois bien que de ma vie, je n'oublierai ce que Dieu a fait pour moi. En disant ces mots, Henri pressa tendrement Julia contre son cœur et elle s'éloigna précipitamment. « C'est une bonne fille que cette Julia, » dit Franck à son maître lorsqu'elle fut partie. « Je n'ai pas entendu ce qu'elle vous a dit, et cependant je suis sûr que c'est pour votre bien. »«
Franck, monsieur,
tu vas préparer deux chevaux et faire vos valises. »«
Quoi, monsieur, est-ce que nous partons ?»
Fais ce que je te dis et attends-moi ici. Dans un instant, je serai de retour.
Oui, cela suffit, monsieur.
En disant ces mots, Henri s'enveloppa dans son manteau et courut au rendez-vous indiqué. Il était bien aise de s'assurer par lui-même jusqu'où la marquise pousserait sa vengeance, mais il avait eu soin de prendre sous son manteau une épée et une paire de pistolets. Minuit venait de sonner quand Henri arriva devant la maison de la comtesse. « Oh, je suis peut-être venu trop tard, » dit-il en lui-même, « et le coup prémédité n'aura pas lieu. » En attendant, il se promena devant la maison qui faisait le coin d'une petite rue sombre et qui, par sa situation isolée, était bien propre à servir les desseins de la marquise. Il attendait depuis quelques minutes lorsqu'un homme, enveloppé dans un manteau, et tenant une lanterne sourde, sortit de la petite rue et vint droit à Henri.
« Vous êtes exact, lui dit-il, c'est bien. Suivez-moi, je vais vous conduire chez la comtesse. »«
Et pourquoi n'entrons-nous pas par cette porte ?» demanda Henri à l'inconnu.
« C'est parce que vous seriez vu de tout le monde, et comme il y a une autre entrée secrète qui donne dans la rue que vous voyez, Madame la comtesse m'a dit de vous introduire par là. »
« Bon, en ce cas, marchons, je vous suis. » Henri eut l'air de suivre son guide sans défiance, mais il tira doucement ses pistolets de dessous son manteau et se tint prêt à tout événement. À peine eut-il tourné le coin de la rue que deux autres hommes, sortant d'une embuscade où ils étaient cachés, fondirent à l'improviste sur Henri. Mais notre héros les reçut le pistolet au poing et, tirant sur eux à bout portant, les étendit tous deux sans vie à ses pieds. L'homme à la lanterne ne songea qu'à prendre la fuite en voyant tomber ses camarades. Henri courut après lui, mais son assassin connaissait mieux que lui les détours de la ville et il échappa bientôt à ses regards. Réfléchissant qu'en voulant poursuivre celui-là, il pourrait en rencontrer un plus grand nombre, Henri pensa qu'il était plus prudent de regagner son auberge, et après bien des détours, il parvint à la retrouver. « Oh, oh, il paraît que la soirée était chaude !» dit Franck en voyant Henri poser ses pistolets déchargés sur une table.
« Oui, mon cher Franck, tiens, recharge mes armes. »« Est-ce que vous allez recommencer, monsieur ?»«
Non, mais nous allons partir. »
« Ah, il me paraît que vous en avez assez. Et où allons-nous, monsieur? À Naples?
Non, j'ai assez de l'Italie.
Tant mieux, ma foi, parce que ce pays m'ennuie et moi aussi.
Nous allons en France, à Paris. Peut-être y serais-je plus heureux que je ne l'ai été jusqu'à présent. Y retrouvais-je celle pour laquelle je donnerais ma vie?
Comment, monsieur? Est-ce que vous y pensez encore?
Si j'y pense, ah, Franck, crois-tu que ces plaisirs bruyants, que ces passions d'un moment, qui depuis mon départ ont occupé mon esprit, aient pu effacer de mon âme le souvenir de ma chère Pauline? Non, ces femmes si séduisantes ont rempli ma tête, troublé mes sens, mais aucune n'est parvenue jusqu'à mon cœur.
Dans ce cas, monsieur, je vois que c'est bien de l'amour que vous ressentez pour votre inconnue.
Oh oui, l'amour le plus tendre, le plus sincère. Mais les chevaux sont prêts, monsieur. Mais que le disais-tu donc?
Il est singulier, disait Franck en sortant de Rome avec son maître, que ce soit toujours au milieu de la nuit que nous nous mettrons en voyage.
Oh, ce que c'est que la destinée!
Chapitre 14. Paris. Henri et Franck arrivèrent à Paris après s'être arrêtés quelque temps à Turin et à Lyon sans qu'il leur fût arrivé rien de remarquable.
« Ma foi, monsieur, dit Franck en son maître, en entrant dans la capitale des plaisirs et de la gaieté, au premier abord, cette ville me plaît beaucoup plus que toutes celles que nous avons parcourues. Tenez, voyez donc tout ce monde qui va et vient, c'est un mouvement perpétuel. À chaque pas, je trouve des sujets de curiosité. On voudrait être triste qu'on ne pourrait pas. Et les femmes, monsieur, mais elles sont charmantes. Franchement, dites-moi, en avez-vous vu ailleurs qui a cette tournure, cette grâce, cette élégance, qui regarde les hommes avec un sourire si flatteur, si expressif? Ah, monsieur, je suis dans l'enchantement.
Diable, Franck, tu deviens éloquent.
C'est le site qui m'inspire, monsieur.
Laisse là ton site et occupons-nous de trouver un hôtel où je puisse demeurer convenablement.
Henri se logea dans le quartier de la Chaussée-d'Antin, et le soir même de son arrivée, il alla courir les spectacles et les cafés les plus fréquentés de la ville. Harassé de fatigue, il rentra à son hôtel sur les 2 heures du matin et trouva Franck qui l'attendait d'un air un peu moins gai que le matin.
« Qu'as-tu donc, Franck ? » lui demanda Henri. « T'ennuierais-tu déjà à Paris ?»«
Oh non, monsieur, ce n'est pas cela. »
« Eh bien, pourquoi donc as-tu ce soir un air si différent de ce matin ?»«
Ah, monsieur, c'est qu'il m'est arrivé une petite aventure. »«
Une aventure ? Ah, oh, voyons ce que c'est, raconte-moi cela. »«
Oh, je le veux bien, monsieur, si cela peut vous faire plaisir. »« Vous saurez donc qu'après que vous fûtes parti, je me rendis au Palais Royal, parce qu'on me l'a dit que c'était l'endroit le plus curieux de la ville. » Et j'y étais depuis plus d'une heure, occupé à admirer tout ce qu'il renferme, et m'extasiant devant chaque objet nouveau que je voyais, lorsqu'un homme, très bien mis et d'un extérieur fort honnête, s'approcha de moi pour me demander le chemin de la rue, d'une rue enfin. Ma foi, monsieur, lui répondis-je, je ne connais pas plus que vous, car j'arrive dans cette ville où je suis tout à fait étranger.
Vous êtes étranger, me dit-il, et bien moi aussi. Étonnez, puisque le hasard me fait vous rencontrer. Si vous le voulez, nous passerons la soirée ensemble. J'acceptai, n'étant pas fâché de trouver quelqu'un avec qui causer dans une ville où je ne connaissais personne. Nous continuâmes donc de nous promener en causant, lorsque le diable, ou plutôt le sort, voulut qu'il vînt à parler du jeu de billard. Vous savez, monsieur, que c'est mon jeu favori et que j'y suis même d'une certaine force.
Oh, tu me l'as déjà dit. Eh bien, sans doute, tu auras voulu y jouer.
Justement, monsieur, c'est-à-dire, c'est mon homme qui m'en proposa une partie et je ne manquais pas d'accepter. Nous entrâmes donc dans un café et nous fûmes au billard. Il était occupé, mais comme la partie était sur le point de finir, Nous restâmes à regarder. Un des deux joueurs était beaucoup plus faible que l'autre, mais mon étranger le plaisantait sur son jeu. « Je parie 2 louis, lui dit-il à un coup, que vous ne faites pas cette bille-là. » Et la bille était assez belle. La personne paria et gagna. Mon homme parut piqué d'avoir perdu et dit qu'il prendrait sa revanche. L'occasion se présenta bientôt. C'était à la personne qui avait gagné les 2 louis à jouer. Elle n'avait absolument qu'à pousser un peu pour mettre dans la blouse une bille qui était déjà à moitié. Eh bien, mon homme, il est effronté de dire que l'autre ne le ferait pas. Moi, je lui répondis qu'il la ferait. Et croiriez-vous, monsieur, qu'il osa me parier 20 louis que non? J'acceptais sur le champ. J'avais malheureusement tout mon argent sur moi. Et tu as gagné? Au contraire, monsieur. Le maladroit, qui avait déjà gagné un coup 100 fois plus difficile, prit si bien la bille en sens contraire qu'au lieu de la faire, il se mit lui-même dedans. Alors, le désespoir dans l'âme, je donnais tout ce que je possédais. Oh, j'avais les 20 louis moins 6 francs. Mon gageur voulut bien me faire grâce du reste, et je sortis du café en maudissant le destin qui m'avait fait rencontrer cet étranger. Henri ne put s'empêcher de rire de l'aventure qui était arrivée à ce pauvre Franck. Cependant, il le dédommagea de sa perte et l'engagea à être plus prudent une autre fois, et surtout à se défier de ces prétendus étrangers qui ne se vont passer pour tels qu'afin de mieux duper les véritables. Henri était depuis quelques jours à Paris, lorsqu'un soir, au spectacle, il se trouva placé derrière une dame qui lui parut mériter son attention. Effectivement, elle était grande, bien faite, d'une tournure agréable, d'une figure expressive, et paraissant ne pas avoir avec indifférence les œillades que son voisin lui lançait. Henri, enchanté de sa nouvelle conquête, aurait bien voulu lui parler, mais elle avait avec elle un gros homme couvert de bijoux et de diamants, ayant assez l'air d'un marchand de bœufs retiré, qui paraissait aussi embarrassé de ses deux montres que de son gros ventre, et occupait à lui seul les 3/4 de la loge où était Henri. Voyant bien qu'il ne pourrait lui déclarer ses sentiments tant qu'elle aurait cet homme auprès d'elle, Henri se contenta, au sortir du spectacle, d'ordonner à Franck de suivre la voiture où elle montait et de tâcher d'obtenir quelques renseignements sur cette dame. Henri attendait avec impatience le retour de son valet lorsque celui-ci arriva. « Eh bien, mon cher Franck, lui dit Henri en l'apercevant, as-tu de bonnes nouvelles à m'apprendre ?»« Oh oui, monsieur, d'excellentes. Tu sais où demeure la dame en question ?»« Oui, monsieur, dans une superbe maison sur le boulevard des Italiens. »« Bon, et as-tu appris quelque autre chose ?» Oui, monsieur, le portier de la maison est justement fort bavard. Il n'a pas fait difficulté de causer avec moi. Bravo, Franck. Eh bien, cette dame, c'est une danseuse de l'opéra, monsieur. Oh, une danseuse de l'opéra, dit en lui-même Henri. Diable. Mais il y a beaucoup à gagner et à perdre avec ces femmes-là. Je sais de plus, continua Franck, que le gros homme qui était avec elle est un ancien fournisseur qui l'entretient comme une princesse. Est-ce que vous saurez, monsieur, que c'est le bon ton d'entretenir une danseuse de l'opéra? Ah, c'est le bon ton, Franck? Oui, monsieur. Aussi la vôtre a-t-elle déjà eu pour amant 2 princes russes, 4 financiers, 6 anglais, 10 fermiers généraux, 3 banquiers, et elle en est à son 9e fournisseur.
Oh, tu plaisantes, Franck.
Non, monsieur, je vous dis la vérité. C'est parce qu'elle est en vogue. C'est la femme à la mode, la beauté du jour. Ce sont les propres paroles du portier.
Oh, c'est la femme à la mode. En ce cas, comme je veux suivre les modes, je Je tâterai de danseuse.
Vous avez raison, monsieur, c'est le meilleur moyen de faire parler de vous.
Je vous engage cependant à ne pas la garder longtemps, car du train dont elle va, nous nous trouverions bientôt sur la liste des réformés.
Sois tranquille, Franck. Si cette femme-là m'aime, elle ne me ruinera pas.
Oh, monsieur, chercher de l'amour chez une danseuse, c'est trop exigé.
Le lendemain matin, Henri écrivit un billet doux à sa belle et le fit porter par Franck. Celui-ci revint bientôt avec une réponse de la dame qui engageait Henri à venir prendre le café avec elle le lendemain.
« Eh bien, Franck, dit Henri, tu vois que j'ai touché son cœur. »«
C'est possible, monsieur.
Mais dis-moi, t'a-t-elle fait quelques questions ?»«
Oh, certainement, monsieur. Elle m'a demandé votre nom, vos titres. »«
Le comte de Framberg, a-t-elle dit, quand je vous eus nommé. »«
Et sur le champ, elle vous a répondu le billet que je viens de vous remettre. »
C'est une femme qui ne reçoit pas le premier venu. Oh, c'est une femme dans le dernier genre.
Henri, pour passer le temps jusqu'au lendemain, recommença ses courses de la veille et se mit à visiter tous les endroits publics. En passant près d'une maison de jeu, le désir d'augmenter son argent afin de faire apparaître une brillante figure le pousse à y monter. Il pose en tremblant sur la rouge quelques louis qu'il s'attend bien à perdre. Mais il gagne. Il continue de jouer. La fortune continue de lui sourire. Il voit qu'il a la veine, il joue plus gros jeu. Et enfin, au bout d'une heure, il sort de là avec 30 000 francs de plus qu'il n'avait en entrant. C'est pour le coup qu'il veut être à la mode et éclipser tous les élégants du jour. Il rentra à son hôtel en courant comme un fou. Franck reçoit l'ordre de louer le plus joli cabriolet, de lui envoyer tout de suite un bijoutier, un marchand de chevaux, un maître de danse. Franck, étonné, court de côté et d'autre, sans savoir ce que cela veut dire, mais en rendant grâce à la destinée qui vient de faire de son maître un millionnaire. Cependant, avec 30 000 francs, on ne va pas loin à Paris. Le bijoutier et le marchand de chevaux lui avaient déjà vendu plus du double. Henri vit bien qu'il n'était pas si riche qu'il le croyait, mais il pensa qu'en retournant à la roulette, il pourrait en gagner davantage. En attendant, il se contenta d'acheter un cheval pour son cabriolet et une épingle en brillant pour lui. Puis il renvoya ses marchands en leur promettant de les revoir bientôt. Enfin, le lendemain arriva. Henri l'attendait avec impatience. Car, quoi que l'on soit riche, cela ne m'empêche pas de s'ennuyer. Après avoir fait une toilette recherchée, Henri monta dans son cabriolet et prit le chemin du boulevard des Italiens. Il était près de midi. À cette heure-là, les rues de Paris sont remplies de monde, surtout dans un quartier aussi fréquenté que celui où allait Henri. Notre jeune homme, brûlant du désir d'arriver chez sa belle, faisait aller son cheval comme un fou. Déjà plusieurs fois, il avait manqué d'écraser quelqu'un, et il ne devait qu'à son adresse d'avoir évité des malheurs. Mais en détournant une rue, il n'aperçut pas la voiture d'un charretier qui venait de son côté. Le charretier, suivant l'usage de ces messieurs, ne se dérange pas pour un cabriolet. Et Henri va choquer avec violence contre les roues de la charrette. Son léger équipage n'était pas de force à lutter contre une pareille voiture. Il tombe sur le côté et, dans sa chute, renverse une vieille femme qui sortait d'une boutique où elle était allée chercher du mou pour son chat. Les cris « Au secours, je suis morte !» et le cabriolet dans le ruisseau attirèrent bientôt une foule immense de ces flâneurs dont Paris fourmille. « C'est une femme écrasée par un cabriolet que conduisait un jeune homme, » dit l'un. «
Ces freluquets n'en font pas d'autres. Le cabriolet est brisé, pourtant.
C'est étonnant, dit un autre, que cette petite femme ait eu la force de jeter une voiture par terre.
Et pendant que l'on discourait ainsi, le charretier avait jugé à propos de s'en aller avec sa charrette, de peur qu'on ne lui fît payer les pots cassés. Henri sortit du cabriolet en envoyant au diable les rouliers et les badauds. Franck, qui était derrière le cabriolet, avait manqué perdre la vie, mais il en fut quitte pour un œil poché et quelques bosses à la tête. La vieille femme, qui avait eu plus de peur que de mal, mais qui cependant voulait tirer parti de l'aventure, remplissait l'air de ses cris et de ses gémissements. Henri croyait s'en retourner tranquillement chez lui et avait chargé Franck de relever son cabriolet, lorsque la foule qui l'entourait conseilla à la vieille de le faire aller chez le commissaire.
« Chez le commissaire !» s'écria Henri. « Mais que voulez-vous que j'y fasse ?»«
Ah ah, mon bon monsieur, vous croyez qu'on écrase ainsi le pauvre monde et puis qu'il n'est plus question de rien ?»«
Mais imbécile, c'est moi qui suis la victime de tout cela, puisque c'est mon cabriolet qui a été brisé. »
Oui, non, cette pauvre femme, vous avez écrasé. Croyez-vous qu'il ne faudra pas lui donner de quoi se faire penser?
Mais si elle s'est tuée, que voulez-vous que j'y fasse?
C'est égal, il faut une consolation.
Henri vit bien que, pour sortir de là, il fallait de l'argent. Il s'approcha de la vieille, lui mit une quinzaine de louis dans la main, et de cette manière parvint à esquiver le commissaire.
« Tiens, que cette vieille braillarde est heureuse !» dit une commissaire à sa voisine, commère à sa voisine. « Voudrions bien que pour la moitié de la somme, il m'en arrivera tous les jours autant. »«
Il y a des gens qui ont du bonheur, » répondit l'autre. « C'est pourtant à son chat qu'elle doit cela. »«
On ne sera pas plus riche, » dit une troisième. « C'est une vieille joueuse, elle va mettre tout son argent à la loterie. »
Henri revint chez lui, crotté, fatigué, et surtout désespéré d'avoir manqué son rendez-vous. Cependant, il se rhabilla, fit venir une voiture, et se hasarda à se présenter chez sa belle. Il fut agréablement surpris en apprenant qu'elle y était encore. Il ne savait pas qu'il est du bon genre de se faire attendre 2 heures partout où l'on va. Henri fut reçu comme quelqu'un que l'on connaîtrait depuis longtemps. Il vit que Franck ne l'avait pas trompé en remarquant l'élégance et la somptuosité de la demeure de la belle danseuse. Il n'avait jamais rien vu en Italie de comparable au boudoir d'une femme de l'opéra. L'aventure arrivée à Henri fut le sujet de l'entretien du déjeuner. La dame en rit beaucoup, et lui promit que ce serait la nouvelle du jour. Henri était étonné de trouver autant d'usage et d'esprit dans une femme de théâtre. Mais ce qui le surprenait le plus, c'était la réserve de ses manières et les obstacles que l'on opposait à ses transports amoureux. Henri ignorait qu'une femme qui se vend est plus difficile à vaincre qu'une femme qui se donne. L'une cède au penchant de son cœur, tandis que l'autre diffère ses faveurs afin de les faire payer davantage. Henri et sa belle étaient à converser ensemble lorsque l'on vint avertir la dame que quelqu'un désirait lui parler.
« Mais j'avais déjà dit que je n'y étais pour personne, » s'écrie-t-elle avec impatience.
On lui répond que c'est quelqu'un qui veut absolument entrer. Alors elle prie Henri de passer dans son salon pour un moment en lui disant que c'est sa marchande de mode, qu'elle va la renvoyer. Henri lui parut consentir à s'éloigner, mais comme pour aller au salon, il fallait traverser un cabinet vitré qui donnait dans le boudoir de la dame, il revint sur ses pas, et dès qu'il fut seul, afin de s'assurer par ses yeux de ce qui se passait dans le boudoir. Et au lieu de la marchande de mode, Henri vit entrer un jeune officier qui se jeta dans un fauteuil
sans regarder la maîtresse de la maison. « Comment, c'est vous, Floricourt ?» lui dit celle-ci d'un air moitié riant, moitié embarrassé. « Oui, c'est moi, et je trouve bien étonnant que tu me fasses ainsi attendre dans ton antichambre. Mais pouvais-je soupçonner que ce fût vous depuis 8 jours que je ne vous ai vu ?»« Oh, tu croyais sans doute que c'était ton gros Mondor, et qu'il s'en irait tranquillement dès qu'on lui aurait dit que tu n'étais pas. » « Mais je suis pas de cette patte-là, moi. Je me moque de tes consignes et de tes entreteneurs. »« Mais monsieur, qu'est-ce que c'est que ce ton-là? Vous appartient bien à vous que j'ai comblé de bienfaits, que j'ai habillé des pieds à la tête, de me dire de pareilles sottises. Vous moquez pas alors de mes conquêtes? Pourquoi j'étais assez bonne pour me priver de tout pour monsieur? En vérité, les femmes sont bien bêtes. » D'avoir quelquefois des faiblesses. On n'oblige jamais des cas ingrats. Il s'agit aussi de vos noms, madame. Vous m'en avez fait un qui ne me plaît pas du tout. Monsieur, quand on reçoit quelque chose d'une femme, il faut prendre le bon comme le mauvais. En vérité, eh bien moi, je t'apprendrai à ne plus me jouer de ces tours-là. Et je veux faire payer le médecin, celui qui déjeunait avec toi. Vous êtes fou, Floricourt. J'étais seul, je vous assure. Je ne donne pas dans ces comptes-là. Puisqu'il s'est caché, c'est que ce n'est pas un payant. Et je lui ôterai l'envie d'y revenir. En disant cela, le jeune homme se met à regarder partout, à donner des coups de pied sous toutes les tables. Enfin, il aperçoit Henri, qui était resté immobile derrière la porte vitrée. Il ouvre précipitamment et lui donne un soufflet, avant que notre héros ait eu le temps de l'éviter. Henri allait tomber sur son adversaire lorsque la dame vint se mettre entre eux pour les séparer. « Monsieur, dit Henri à l'officier, si vous êtes homme de cœur, vous me rendrez raison de l'insulte que vous m'avez faite. »« Oh, monsieur n'est pas content, répond celui-ci en ricanant. Eh bien, je lui donnerai une leçon plus forte. Point de propos, monsieur, je ne les aime pas. Voilà mon adresse. Je vous attends demain chez moi à 4 heures du matin. En disant ces mots, Henri sortit sans daigner jeter les yeux sur la femme qui était auprès de lui. C'est ma faute aussi, se dit-il à lui-même en regagnant son hôtel. J'aurais pas dû aller chez cette femme-là. Mais depuis que je voyage, je ne fais que des sottises. Ah, mon père, si vous connaissiez la conduite de votre fils, combien je vous causerais de chagrin. Et toi, bon Mulherne, si j'avais mieux suivi tes conseils, je ne saurais pas où j'en suis. Mais, puisque le destin m'est toujours contraire, puisque je ne retrouve pas celle qui aurait fait le bonheur de ma vie, je jure de retourner bientôt à Fromberg. L'officier fut exact au rendez-vous. Henri prit ses armes et, sans se dire un seul mot, ils se rendirent au bois de Boulogne. Là, chacun d'eux ôta son habit et ils s'attaquèrent avec impétuosité. Henri était moins fort sur les armes que son adversaire, mais il était de sang-froid et savait parer adroitement tous ses coups. Bientôt, l'officier, en voulant atteindre Henri, s'enferra dans son épée et tomba sans vie à ses pieds. Henri retourna en courant à son hôtel. Il lui semblait que l'ombre de sa malheureuse victime était attachée à ses pas. C'est une chose affreuse, en effet, de tuer un de ses semblables pour une femme que l'on méprise. Henri faisait 1000 réflexions et son âme était oppressée sous le poids du sang qu'il venait de répandre. Franck fut effrayé en voyant son maître dans un état d'abattement qui ne lui était pas ordinaire. « Mais qu'avez-vous, monsieur ? Lui dit-il. « Vous serait-il arrivé quelque malheur ?»« Oh oui, Franck, un malheur que je ne me pardonnerai jamais. »« Que voulez-vous, monsieur ? C'est au destin qu'il faut vous en prendre. » Eh bien, prépare-toi pour notre départ. Nous quitterons Paris ce matin même. Puis-je savoir où nous allons, monsieur?
Nous retournons à Framberg. Il me tarde de revoir mon père et ce bon Mullern qui m'aimait tant. Ah, ma foi, monsieur, j'en suis enchanté aussi, car il n'y a rien au monde qui vaille la maison paternelle.